Telles sont l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission qui vous donne la parole sur RFI. Dans notre débat, nous parlerons ensemble de la future force du G5 Sahel. Les ministres françaises et allemandes de la Défense, qui étaient en tournée dans la région début de semaine, se sont montrés très optimistes, autant dans l'efficacité de cette nouvelle force que dans la réunion des fonds nécessaires. Plus de 420 millions d'euros tout de même. Et vous, êtes-vous optimiste ou dubitatif quant à l'efficacité de cette nouvelle force? Laurent Martel viendra répondre aux question d'un auditeur dans quelques minutes et puis vous aurez la parole dans une demi-heure au 33 9 693 693 70. Avant cela, comme chaque jour, vos questions sur l'actualité, nos journalistes, nos experts pour vous répondre. On parle ce matin de politique pakistanaise, des JO de 2024, mais d'abord du Venezuela avec Apoulos qui nous appelle de Daloa en Côte d'Ivoire. Bonjour Apoulos.
Bonjour Marie, nous sommes très heureux d'être de vôtre ce matin.
Eh bien tant mieux, le plaisir est partagé Apoulos, on écoute vos questions sur le Venezuela.
Après le vote sur l'Assemblée constituante voulue par le président Nicolas Maduro, deux leaders de l'opposition vénézuélienne ont été arrêtés, à savoir Leopoldo López, Antonio Lidesman, maire de Caracas. Quelles sont alors les raisons évoquées par le gouvernement pour leur arrestation? Ensuite, le pays se retrouve-t-il avec deux assemblées nationales et constituantes? Que prévoit la loi?
Merci beaucoup, Apoulos, pour ces questions. C'est Gaspard Estrada qui va vous répondre, politologue, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po Paris. Bonjour, monsieur Estrada.
Bonjour.
Alors, les raisons invoquées donc pour l'arrestation des deux leaders d'opposition, Leopoldo López et Antonio Ledesma, qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'ils ont été interpellés?
Selon le gouvernement vénézuélien, ces deux leaders auraient été tentés de quitter le pays et donc de violer les termes de leur assignation à résidence, puisqu'ils étaient jusqu'à il y a quelques semaines emprisonnés. Et également, cette assignation à résidence les empêchait de s'exprimer sur la politique vénézuélienne. Et donc, c'est au nom de ces deux, excuses qu'ils ont été remis en prison, même si on a bien vu, y compris par le fait que ce n'est pas le parquet qui les a arrêtés, mais les services de sûreté de l'armée, qu'il y a eu beaucoup de discussions au sein du gouvernement autour de ces arrestations.
Alors, ces arrestations ont eu lieu au lendemain de l'élection des membres de l'Assemblée constituante. Ces membres ont prêté serment hier. Finalement, ils ne seront installés que demain. L'Assemblée constituante, donc, son installation a été repoussée d'une journée. Le pays, c'est la question d'Apoulos, va se retrouver avec deux assemblées. L'Assemblée nationale, qui est en majorité d'opposition, et cette Assemblée constituante.
Oui, et je pense que l'opposition fera tout pour exercer cette prérogative, même si dans les faits, il sera très difficile pour l'opposition de maintenir cette Assemblée nationale en fonctionnement, tant la volonté du président Maduro est justement de remplacer, et d'ailleurs tel était le sens de cette manœuvre, de remplacer l'actuelle Assemblée contrôlée par l'opposition par cette nouvelle Assemblée constituante qui sera donc contrôlée par le gouvernement.
Mais est-ce que c'est prévu dans la loi qu'une Assemblée constituante remplace une Assemblée nationale ou alors elles sont censées fonctionner en parallèle?
Ah non, elles sont censées remplacer. D'ailleurs, c'est tout l'objectif du gouvernement, de pouvoir remplacer l'Assemblée nationale, également de pouvoir procéder à des changements au sein du parquet. On a bien vu que le parquet aujourd'hui, en tout cas la procureure générale qui est à la tête du parquet, ne souhaite plus collaborer avec le président Maduro parce qu'elle dénonce ces arrestations arbitraires. Et donc pour le président Maduro, il s'agit là d'une véritable reprise en main de l'État vénézuélien.
Les députés d'opposition ont dit qu'ils allaient résister, qu'ils allaient rester assis à leur siège, alors que les membres de l'Assemblée constituante sont censés s'installer demain au Parlement. Il risque d'y avoir une vraie confrontation, même peut-être physique.
Oui, et c'est justement ce que l'on craint depuis d'ailleurs l'élection de cette Assemblée constituante où le jour du scrutin il y eut plus de 10 morts et c'est pour cela que dans cette nouvelle séquence politique qui s'ouvre depuis dimanche, on craint de nouvelles violences.
Alors vous évoquiez la procureure générale qui a donc ouvert une enquête hein, après des accusations de la société britannique qui s'est occupée du vote électronique des membres de l'Assemblée constituante. Cette société dénonce une participation gonflée et donc cette procureure générale a décidé d'ouvrir une enquête. Évidemment, on aura l'occasion sûrement d'en reparler. Vous êtes très nombreux à poser des questions sur la situation au Venezuela qui évolue de jour en jour. Merci beaucoup, Gaspard Estrada, d'avoir répondu aux questions d'Apoulos, notre auditeur de Daloa. On retourne au standard pour accueillir un nouvel auditeur pour de nouvelles questions. C'est Marius qui est à Abidjan, toujours en Côte d'Ivoire. Bonjour Marius.
Bonjour Marie, bonjour à nos braves techniciens de l'émission.
Merci pour eux. Vous avez des questions, vous, à poser sur le Pakistan aujourd'hui.
Tout à fait. La semaine dernière, la Cour suprême du Pakistan a destitué le Premier ministre Nawaz Sharif pour corruption. Et il a nommé son frère Shahbaz Sharif, membre du parti majoritaire, pour le succéder. Ma question est de savoir sur quels éléments se base la Cour suprême pour avoir destitué Nawaz Sharif. Comment expliquer que Shahbaz Sharif doit se faire élire au Parlement fédéral alors qu'il a déjà un mandat au Parlement du Punjab? S'il n'est pas élu au Parlement fédéral, qui est pressenti à sa place?
Merci Marius pour ces questions. Alors depuis la destitution de Nawaz Sharif, en attendant que le Parlement fédéral se prononce pour ou contre la nomination de son frère au poste de Premier ministre, eh bien l'ancien ministre du pétrole, Shahid Rakan Abbasi, a pris la tête du gouvernement pakistanais. Mais on va revenir d'abord avec vous, Christophe Paget, sur les raisons de la destitution de Nawaz Sharif. De quels éléments la Cour suprême a mis en avant pour expliquer cette destitution?
Eh bien tout est parti de la publication l'an dernier des fameux Panama Papers, 11,5 millions de documents émanant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, qui documente les avoirs offshore de tout ce que la planète ou presque compte de riches et de puissants. Parmi eux, trois des enfants de Nawaz Sharif. Les médias pakistanais se sont aussitôt penchés sur le train de vie fastueux de la famille, sur ses luxueuses propriétés londoniennes, et la Cour suprême pakistanaise a enquêté sur la légitimité des fonds utilisés par les Sharif pour acheter ses biens immobiliers à Londres en passant par des sociétés offshore.
En avril, la Cour a estimé ne pas disposer de preuves pour destituer le Premier ministre.
Oui, mais elle mettait aussi sur pied une commission d'enquête qui, dans le rapport qu'elle a remis début juillet, constate une importante disparité entre les revenus de la famille Sharif et son train de vie. Pour autant, si la Cour suprême a destitué la semaine dernière le Premier ministre, c'est pour ce qui peut apparaître comme une petite somme, l'équivalent de $2,700 mensuels qu'il n'aurait pas déclaré. Un salaire qui lui est attribué par une entreprise détenue par un de ses fils aux Émirats Arabes Unis. Pour autant, il ne l'a pas touché, mais selon la Cour, en ne déclarant pas ces $2,700 mensuels, il ne s'est pas comporté en membre honnête du Parlement, d'où son départ.
Et c'est un verdict qui divise le Pakistan.
Oui, certains relèvent ce qu'ils appellent la technicalité du motif avancé et parle d'un verdict politique. Il note aussi la présence de militaires, l'armée est toujours puissante dans le pays, au sein de cette commission mise en place par la Cour suprême. Des militaires qui auraient pu ainsi vouloir revenir sur les gestes d'ouverture de Nawaz Sharif envers le voisin indien. D'autres voient dans ce verdict une bonne nouvelle pour la démocratie pakistanaise. On peut quand même noter qu'en cette décennie, même si la moitié du temps ce sont les militaires qui ont dirigé le Pakistan, aucun premier ministre n'aura mené son mandat à terme.
On en vient à la deuxième question de Marius Abidjan. Comment expliquer que Shahbaz Sharif doive se faire élire au Parlement fédéral pour être Premier ministre alors qu'il a déjà un mandat au Parlement du Punjab?
Alors oui, ça peut paraître surprenant, mais c'est bien Nawaz Sharif, hein, poussé à la démission, qui choisit son successeur parce qu'il dispose toujours de la majorité au Parlement avec le parti dont il reste le chef, le PMLN. Les prochaines législatives ont lieu dans un peu moins d'un an et il n'est pas question d'organiser des élections anticipées dont pourrait profiter le principal adversaire politique de Nawaz Sharif, Imran Khan. Depuis des mois, l'ancienne vedette de cricket et chef du PTI, qui a fait de la lutte anticorruption son cheval de bataille, demandait la démission du Premier ministre et c'est ce qui vient de se passer.
En attendant les élections de juin 2018, Nawaz Sharif a donc nommé son frère, Shahbaz Sharif, pour lui succéder.
Problème, hein, pour devenir Premier ministre, Shahbaz Sharif doit être élu au Parlement national. Or, pour le moment, il n'est élu qu'au Parlement local, hein, un de ses parlements locaux, celui du Punjab, qui est le fief de la famille Sharif. Dans les 45 jours, des élections devraient donc être organisées au Pendjab pour que Shahbaz récupère le siège de son frère au Parlement et puisse ainsi devenir Premier ministre. En attendant, vous le disiez, c'est celui qui occupait jusqu'ici le poste de ministre du pétrole, Shahid Abbasi, qui fait la transition au poste de Premier ministre, nommé une fois de plus par Nawaz Sharif et confirmé par le Parlement. Vous noterez au passage le caractère très clanique et familial de la politique pakistanaise. Plus de la moitié des sièges d'élus nationaux aux provinciaux passeraient de père en fils ou entre frères. D'ailleurs, selon la presse régionale, Shahbaz compterait faire élire à son siège régional son fils, Hamza, qui occuperait aussi ses actuelles fonctions de Premier ministre de la région du Pendjab.
Voilà, toute la famille est là. Et en quelques mots, s'il n'est pas élu au Parlement fédéral, qui est pressenti à sa place de Premier
ministre ? Alors logiquement, il devrait être élu. Le Pendjab est, comme je l'ai dit, le fief de la famille Sharif. Tous les électeurs du PMLN devraient se mettre en ordre de marche derrière lui, d'autant qu'au niveau national, l'opposition n'arrive pas à se mettre d'accord. De toute façon, quel que soit le résultat des élections locales au Pendjab, on peut être sûr que ce sera un membre du PMLN et un fidèle de la famille Sharif qui occupera le poste de Premier ministre jusqu'en juin prochain. L'actuel Premier ministre de transition pourrait d'ailleurs très bien tenir le poste jusqu'à ce moment-là, s'il n'est pas rattrapé par une vieille affaire de corruption ressortie à l'occasion de sa nomination.
Une affaire donc de famille, de corruption, résumée donc par Christophe Paget. Merci d'avoir été avec nous. En direct, en studio, pour répondre à Marius, notre auditeur d'Abidjan. Abidjan, où il est 8h21, 10h21 à Paris. On passe à toute autre chose, au sport, au JO, avec Patrick qui nous appelle de Port-Gentil. Bonjour Patrick.
Bonjour Marie.
On vous écoute Patrick, pour nous parler des JO de 2028 ou 2024.
Oui Marie, bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute l'équipe des Cafés des Sports. Bon retour. La question est la suivante. Avec l'accord entre Los Angeles et le CIO pour l'organisation des Jeux 2028, et ensuite Paris reste la seule ville en compétition pour les Jeux 2024. Alors Marie, ma première question, pourquoi la ville de Paris n'est pas déclarée officiellement comme pays organisateur des Jeux 2024 alors qu'elle est la dernière ville candidate? La deuxième question, quelles sont les infrastructures qui manquent à construire dans la ville de Paris pour accueillir cette compétition? Quel a été le budget global dans la ville de Paris pour l'organisation?
Patrick, Eric Mamru du service des sports de RFI nous a rejoint pour vous répondre. Bonjour Eric.
Bonjour Marie, bonjour Patrick.
Alors effectivement, Los Angeles a dit 2028, ça nous va très bien. Voilà, on sera prêt pour 2028, c'est même une date qui semble arranger les Américains. Alors pourquoi Paris, logiquement, ne recueille pas les Jeux de 2024?
Si, il faut attendre un petit peu, il faut respecter la procédure habituelle en fait. Ce n'est que la première fois que l'on connaît à l'avance ainsi le nom de l'heureux élu pour organiser les Jeux Olympiques. D'habitude, tout se joue lors d'un vote à l'occasion d'une session du Comité International Olympique. Ce jour-là, les membres votent pour le candidat de leur choix, car habituellement, il y a plusieurs candidatures. Là, pour le cas 2024, il n'y en a eu plus rapidement que deux, Los Angeles et Paris, Rome, Budapest et Hambourg ayant tour à tour renoncé. Le CIO a donc eu l'idée de garder ces deux candidatures qui étaient très très bonnes, c'était très précieux pour eux, et de proposer que les deux organisent prochainement les Jeux, ceux de 2024 et ceux de 2028. On a décidé ça le 11 juillet dernier. Restait à déterminer qui organiserait lesquels. Les trois parties devaient se mettre d'accord et c'est ce qui est en train de se faire avec donc le pas important de Los Angeles, son annonce d'avant-hier pour 2028. Mais bon, maintenant, il faut quand même régler quelques petites formalités du côté des États-Unis. Le feu vert nécessaire du conseil municipal de Los Angeles, celui du comité olympique américain. Le comité d'évaluation du CIO va dire ensuite si la ville californienne remplit aussi bien les conditions pour accueillir les Jeux 2028 comme c'était le cas pour 2024. Bon, ça ne fait aucun doute. Et puis, dernière petite étape, ficeler l'accord tripartite entre Paris, Los Angeles et le CIO. Et puis, bon, une fois que tout cela sera fait, on va faire comme d'habitude. On va se réunir. Ça sera le 13 septembre à Lima, la session du CIO. Et là, on va désigner, on va sortir les noms. Mais c'est vrai que le CIO aura pu court-circuiter tout cela et annoncer les noms dès maintenant. Mais bon, dans ce genre d'institution, on aime bien les procédures.
Oui, puis le rendez-vous était prévu. On va peut-être pas l'annuler. À Lima, au Pérou. Alors, en tout cas, 2028, ça a l'air d'arranger Los Angeles. Ça veut dire aussi que Paris est prête pour 2024. Et Patrick nous demande, qu'est-ce qu'il reste à construire comme structure sportive dans la capitale et le budget total pour l'organisation de ces Jeux?
Le budget, c'est 6,6 milliards d'euros. C'est divisé en deux. Il y a le budget du comité d'organisation qui englobe les dépenses consacrées à l'organisation proprement dite des Jeux, les épreuves, l'accueil des 15 000 athlètes. C'est chiffré à 3,3 milliards d'euros. C'est financé par le CIO à hauteur d'1,5 milliard, la vente des billets, le sponsoring, le merchandising. Ça, c'est un budget souvent tenu, même parfois bénéficié bénéficiaire, là où ça pêche parfois un petit peu, où il y a beaucoup plus de dépenses que prévues sur le budget consacré aux infrastructures, les stades, les routes, le métro, l'aéroport. C'est sur ce poste qu'il y a souvent des dérapages. On l'a vu lors des Jeux de Londres avec le métro qui a coûté très cher. Mais là, l'avantage pour Paris, c'est que les infrastructures, et on y vient, sont quasiment toutes construites. 93% sont déjà là. En fait, il reste à bâtir quoi ? Eh bien, un village olympique et paralympique, le village des médias, et puis le centre aquatique de la Plaine, Saint-Denis, et puis un autre stade, une aréna à Bercy, une deuxième. C'est tout, tout le reste, Parc des Princes, le Stade de France, le Stade Jean-Bouin, Roland-Garros, le Palais de Bercy, le Stade Pierre de Coubertin, tout cela est déjà construit. Donc, en fait, les organisateurs disent que normalement, le budget ne devrait pas être dépassé, comme c'est souvent le cas lors des Jeux Olympiques. On a vu lors des budgets précédents, parfois un budget doublé par rapport à ce qui était prévu au départ.
Voilà, et donc à Paris, il lui reste, on a dit, 7 ans, hein, c'est ça ? Mes calculs sont bons.
Oui, ça fait 7 ans.
Voilà, pour être prêt donc pour les JO. Merci beaucoup Éric Mamrut d'avoir été avec nous. Et merci à Patrick pour ses questions. Patrick était à Port-Gentil. Dernière série de questions, elle nous vient de Conco, à Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Conco.
Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe d'Atpêcheurs La Qualité, et comment allez-vous ?
Ça va très bien Conco, j'espère aussi que ça va pour vous à Nouakchott. Vous aviez des questions à nous poser sur le G5 Sahel, hein, qui sera donc l'objet de notre débat dans une quinzaine de minutes. Laura Martel du service Afrique de RFI nous a rejoint et va écouter vos questions. Bonjour Laura.
Bonjour.
Conco, on vous écoute.
Ok, le dimanche 29 juillet, la ministre française des armées, Florence Parly, a commencé une tournée africaine au Tchad, où elle a affirmé sa détermination à aider les G5 Sahel. Ma question est double. Comment le G5 Sahel et l'opération Barkhane vont-ils coopérer pour combattre le terrorisme ? Et Berlin va organiser une conférence des donateurs à la mi-septembre. Est-ce qu'il y a des pistes qui pouvaient être évoquées ?
Merci pour ces questions, Conco. Le G5 Sahel, hein, qui est censé être opérationnel en octobre, devrait compter 5000 hommes. Vous l'avez dit, il y a déjà l'opération française Barkhane sur place. Alors Laura, comment ces deux forces comptent coopérer ?
Eh bien, écoutez, le président Macron l'avait répété au sommet justement du G5 le 1er juillet. La force conjointe n'a pas vocation à remplacer Barkhane, au moins en tout cas dans l'immédiat. Les deux forces doivent agir ensemble, de manière complémentaire et coopérer. Un impératif d'ailleurs, Marie, parce qu'il va falloir du temps pour que cette force G5 soit pleinement opérationnelle. D'autant que parmi les armées de ces cinq pays, certaines sont fragiles, sous-équipées, peu formées. D'autres sont en cours de restructuration. Donc selon Didier Dacko, le général malien en charge de cette force, les postes de commandement sont en train d'être mis en place, puis ce seront les bataillons. Et si vous le disiez, la France espère une première opération dès octobre, vraisemblablement à la frontière Burkina Mali-Niger. La pleine capacité opérationnelle ne devrait être atteinte qu'au premier semestre 2018, explique Didier Dacko. Alors, dans un premier temps, la France va aider à la mise en place des centres opérationnels, que ce soit au Mali et au Burkina, du matériel de communication, de protection pour les soldats, mais aussi 70 véhicules vont être mis à disposition par la France, qui va débloquer au total 8 millions d'euros d'ici la fin de l'année pour aider cette montée en capacité de la force G5. Et sur le terrain, proprement dit, selon le président Macron, eh bien Barkhane apportera un soutien renforcé en matière de conseils, d'assistance technique et logistique au combat. Il faut savoir que depuis plus d'un an, les Français enchaînent les opérations de coopération justement aux frontières avec les différents pays, avec les différentes armées. Et ils vont donc progressivement laisser directement la main à l'état-major du G5 sur les trois zones d'action ou fuseaux donc qui ont été délimitées, Marie.
Barkhane reste à vos côtés, c'est ce qu'assurait la ministre française des armées, mais on peut toutefois se demander pour combien de temps.
Oui, parce que l'opération est très coûteuse. En hommes, 4000 déployés, en argent, environ 500 millions d'euros de surcoût chaque année pour la France. Un allègement du dispositif est donc vraisemblable, selon les informations de notre spécialiste défense, Olivier Four. D'ici 3 ans, davantage d'opérations pourraient être menées depuis la France, à condition de renforcer les moyens de transport aérien. Ce n'est pour le moment qu'une hypothèse, mais la France pourrait ne conserver en fait dans la région que des fonctions clés de renseignement, de conduite des opérations, de communication, de moyens aériens, et pourrait finalement laisser derrière elle des petites bases en sommeil, des petites bases qui pourraient être réactivées en cas de problème avec l'envoi de forces spéciales.
Laura Martel, je vous propose de rester avec nous en studio. Conco à Nouakchott, restez à l'écoute. On va répondre à votre deuxième question juste après le journal et juste avant de lancer notre débat justement sur le G5 Sahel. Dans 30 secondes, toute l'actualité africaine sur RFI.